Et pour s'approcher de Dieu, vous avez les 6 premiers chapitres qui vont vous dire « il faut un sacrifice ». Et puis vous avez les chapitres suivants qui vont vous dire « il faut une sacrificature ». Et puis il y a quelques chapitres sur lesquels je passe qui parleront de l'état dans lequel il faut être soi-même pour s'approcher de Dieu. Et puis vous avez le grand chapitre, le chapitre qui est au cœur du livre, le chapitre 16, qui montre, si vous voulez, comment le peuple, cette fois-ci, et pas seulement l'individu, le peuple peut avoir une relation avec Dieu, ou plutôt, pour m'exprimer d'une façon plus, je dirais, plus juste, comment Dieu peut encore habiter au milieu d'un peuple pécheur. Parce que tabernacle, c'est la maison de Dieu au milieu de son peuple. Et à partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre c'est 24 ou 26, il me semble, vous avez non plus comment s'approcher de Dieu, mais comment vivre avec Dieu. Et vous avez ces deux grands thèmes qui sont en permanence étroitement liés, un peu, si vous voulez, comme des fois on fait des tresses, vous savez, dans les cheveux ou dans les gâteaux. Ces deux thèmes, comment s'approcher et comment vivre avec Dieu, sont en permanence liés dans l'Épître aux Hébreux. C'est pour ça que par moment, vous allez avoir l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et nous, ça nous déroute complètement, il est en train de faire un bon, je dirais, discours théologique, puis tout à coup, il s'interrompt, il dit « Ah mais attention, si vous négligez un tel salut, voilà ce qui va vous arriver. » Puis il revient à son discours, plusieurs versets plus loin. Alors nous, on a perdu un peu le fil, des fois. Mais pourquoi? Parce qu'il veut nous dire « Attention, si vous approchez de Dieu, il y a une façon de vivre avec Dieu qui correspond. » Et on voit que, si vous voulez, la démarche de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est très forte. Par exemple, quand il présente le discours sur la foi au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, eh bien, il va remonter le plus loin qu'il peut. Il remonte à Abel. Et il va dire, voilà, ben, la foi, comment elle se déroule. Et il va montrer la continuité. Et cette continuité, elle arrive au chapitre 12. Jésus-Christ, l'initiateur, le chef, l'initiateur de la foi. Celui qui a à la fois initié la foi et qui l'accomplit parfaitement, qui la réalise parfaitement, qui la porte d'une certaine manière à son sommet. Donc voyez la façon dont l'auteur a utilisé rupture, accomplissement, il y a continuité et accomplissement. Et alors, on va voir que dans cet accomplissement, il y a trois mots qui sont clés. C'est le mot « s'approcher » qui est très fréquent dans l'Épître aux Hébreux et qui marque cette continuité que j'ai évoquée précédemment avec le livre du Lévitique. Je ne sais pas, il y a peut-être 8 ou 10 fois que le mot « s'approcher », le verbe « s'approcher » se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Je vais vous le dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc vous voyez, c'est quand même un des thèmes clés. Et puis il y a un deuxième mot qui vient illustrer cet accomplissement, c'est meilleur. Ils sont qualifiés de meilleurs. Alors vous avez l'espérance qui est meilleure, vous avez l'alliance qui est meilleure, vous avez les promesses, vous avez les sacrifices, vous avez les biens meilleurs, la patrie, la résurrection. Et puis comme l'auteur, il a peut-être, il fait un peu comme nous de temps en temps, il dit « j'ai dû oublier quelque chose ». Alors il ajoute au chapitre 11 et verset 40, il ajoute « quelque chose de meilleur ». Donc vous mettez derrière ce que vous voulez. Et puis cet accomplissement est aussi illustré par le verbe « consommer », qui est un verbe difficile. Consommer. Hébreux 2, on l'a lu dans lors des cultes, mais si on interviewait un peu le public pour demander ce qu'il comprend à travers ce verset, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de réponses tout à fait justes. Et personnellement, j'ai mis longtemps à comprendre, parce que le verbe est difficile à comprendre, et aujourd'hui on ne traduit plus comme ça. Il consomma le chef de leur salut par des souffrances. On traduit aujourd'hui, ils rendent accompli par des souffrances le pionnier, l'initiateur, l'auteur de leur salut. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase mystérieuse? Eh bien, consommer veut dire amener dans une position apte à exercer une charge. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, vous devez exercer la charge de policier, eh bien, il va falloir que vous subissiez un certain nombre d'examens, que vous prouviez que vous êtes capable de. Eh bien, ici, cela veut dire que le Christ est passé par des souffrances dans sa vie terrestre, ce qui le rend apte à accomplir la charge qui va lui être attribuée de souverain sacrificateur, de grand prêtre. Pourquoi? Parce qu'ayant enduré tout ce que les croyants peuvent rencontrer comme épreuve, ici-bas, dans la course chrétienne, il peut leur venir en secours parce qu'il peut les comprendre, parce qu'il a expérimenté les mêmes souffrances. Alors, des souffrances qui nous sont propres, qui sont liées à notre péché. Mais le fait de souffrir dans un monde hostile, ça, le Seigneur l'a éprouvé, et il a même maintenant de pouvoir aider ceux qui sont dans cette situation, parce qu'il a pleinement réalisé cette démarche. Et lié à ce verbe consommer, qui veut dire donc rendre accompli, rendre parfait, vous avez les adjectifs parfait ou les noms comme perfection, ou le verbe rendre parfait. Et je termine cette petite survol de l'épître en disant que quelle est la grande faiblesse donc du culte lévitique, du sacerdoce, de la loi, tout ce qu'on peut évoquer dans l'Ancien Testament, eh bien c'est que même si leur mission est une mission noble, elles n'ont pas pu amener le peuple de Dieu à réaliser la mission que Dieu lui avait demandé de faire, qui était une double mission. Quelle était la mission du peuple de Dieu? La loi n'était pas donnée pour arriver au salut. Je l'ai déjà dit ici, ça c'est encore une erreur. Elle n'est pas donnée pour arriver au salut, la loi. La loi est donnée à un peuple qui est sauvé, qui a connu la mer Rouge. C'est le peuple de Dieu. La loi est donnée comme une réponse du peuple à l'amour de Dieu. Le peuple va montrer, en obéissant au commandement de Dieu, qu'il est un peuple saint, qu'il est un peuple à part, qu'il est le peuple de Dieu. C'était sa première mission, adorer Dieu et témoigner envers Dieu de sa reconnaissance. Ça, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Et la seconde mission, ça nous est dit dans le livre du Deutéronome, je ne me souviens plus le chapitre ni le verset exact, mais c'était d'amener les nations à dire « Mais quel grand Dieu vous avez! Quel Dieu excellent vous avez que vous viviez de cette façon-là !» La mission est une mission d'évangélisation. Et le peuple avait une mission d'évangélisation. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Plus vous évangéliserez selon la pensée de Dieu, plus le culte sera élevé. C'est peut-être quelque chose qu'il faut redire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire un culte sans la mission à côté. Vous ne pouvez pas avoir une mission sans l'adoration. Et malheureusement, nous, chrétiens évangéliques, nous avons ou basculé d'un côté, ou basculé de l'autre, et rarement trouvé l'équilibre. Mais voilà, c'est la mission. Et cette mission, le peuple ne l'a pas réalisée. Il y a eu quelques hommes et femmes fidèles, c'est vrai, incontestablement, et très fidèles. Mais le peuple, dans sa globalité, il s'est tourné vers les nations païennes pour les imiter. C'est-à-dire apostasier. Voilà. Alors, la conclusion que je vais donner, c'est que malheureusement, cette épître n'a pas suffi pour que le peuple juif, évidemment, dans son entier, reconnaisse l'accomplissement de leur foi dans l'Évangile. Est-ce pour autant que Dieu oublie son peuple? Non. Mais ce n'est pas notre sujet. Si vous voulez voir ce que Dieu en pense, vous allez en Romains 9 à 11 et vous verrez que Dieu n'oublie pas son peuple. Alors, après, vous avez derrière, dans la page derrière, là je me suis un peu lancé dans des considérations un peu plus difficiles. Je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, mais c'était quand même pour vous donner une idée. Vous voyez, j'ai fait un petit diagramme en haut. Vous avez en bleu, sur fond bleu, le ciel, et sur fond gris, la terre. Et on a beaucoup évoqué ça indirectement ce matin au culte. Vous remarquez que le Christ est placé d'emblée au point le plus élevé de l'univers. C'est là que commence l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, 5 à 14. Et il y a l'incarnation. L'incarnation est développée au chapitre 2, 10 à 18. Et parce que le Christ s'est fait homme, il a pu être qualifié, reconnu comme grand prêtre ou souverain sacrificateur. On ne peut prendre comme souverain sacrificateur qu'un homme. Ayant été souverain sacrificateur, il va faire une chose, il va pouvoir offrir une victime, c'est lui-même. Il est à la fois la victime d'abord et le souverain sacrificateur. Ayant pleinement réalisé sa charge sur la terre, il est exalté. Il est exalté dans le ciel pour offrir des sacrifices. Pour offrir le sacrifice, pour Offrir le sacrifice, c'est peut-être un mot qui vous choque, mais on va dire, vous comprendrez mieux si je dis présenter son sang. Non pas matériellement, croyez-moi, il n'est pas rentré avec un sang matériel, mais pour présenter le sang devant Dieu. La perfection de son sang. Et ce faisant, eh bien, ayant accompli pleinement cette œuvre, elle est tellement bien accomplie que l'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie un mot qui est absolument extraordinaire, c'est « une fois pour toutes ». C'est un seul mot en grec. « Une fois pour toutes ». Et il le répète. « Une fois pour toutes ». Il n'y a plus à revenir sur ce qui était comme autrefois recommencé, on était toujours debout. Lui, il est assis. Il s'est assis où ? Dans un sanctuaire terrestre ? À la droite de la majesté dans les hauts lieux. Mes chers amis, et c'est une partie de l'Épître, et surtout le chapitre 2, il nous entraîne à sa suite, jusque dans le sanctuaire. Tellement l'œuvre est parfaite. Vous voyez comme c'est extraordinaire de voir comment l'auteur développe cela avec une logique, une intelligence de la pensée divine. Alors, vous comprenez pourquoi il y a des commentateurs qui ont cherché à donner un titre à cet épître. Bon, il n'y en a pas dans le texte, mais ce n'est pas interdit d'en donner. Alors, les uns l'ont appelé « Les cieux ouverts », c'est un bon titre. D'autres l'ont appelé « Le voile déchiré », puis il y a sans doute d'autres titres que j'ignore. Mais, vous voyez, c'est toujours en rapport avec cette idée, le Seigneur est parti du haut des cieux, il s'est incarné, il est venu sur la terre, et il remonte. L'œuvre est accomplie, il n'y a plus rien à faire. Alors vous avez à côté, je vous ai donné une version qui est très littérale, avec les inconvénients que ça présente et certains avantages. Ici, je vous ai donné un exemple de structure littéraire. J'ai pris une des plus faciles, pas forcément la plus, celle qui illustrait le mieux mon propos. Parce qu'il y en a tout du long de l'épître, elle est toute construite comme ça, l'épître. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que dans ce texte, vous avez du chapitre 9, versets 1 à 10, que j'ai intitulé « Les anciennes institutions impuissantes », et chapitre 9, versets 11 à 14, « Les nouvelles institutions efficaces », vous voyez qu'il y a une construction extrêmement poussée du texte, de la structure littéraire de l'épître et du texte biblique. Alors, comment expliquer cela ? Si vous regardez au chapitre 9, le premier mot, les premiers mots, la première alliance. Si vous allez au chapitre 8, les derniers mots, il a rendu ancienne la première alliance. Tiens, pourquoi ces deux mots si proches ? Et tout du long de l'épître, c'est comme ça. Ce qu'on appelle des mots crochets dans l'épître. C'est que l'auteur, avec beaucoup, je dirais, de finesse, il met des points de suture pour relier ces parties. Il vient de développer une longue partie sur le sacerdoce, sur le souverain sacrificateur, le grand prêtre, et il va passer à un autre sujet. Pas vraiment différent, c'est le culte. Mais il veut montrer que les deux sont cohérents et qu'il y a une continuité dans ce qu'il est en train de dire. Et donc, il utilise, et ça tout du long de l'épître, il le fait, c'est pour ça qu'on peut dire que ce n'est pas un accident, là. Il prend ces mots crochets qui relient des thèmes qui se rejoignent. Alors, au verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit ? La première alliance avait donc des ordonnances pour le culte et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre. Il y a deux choses. Il y avait les ordonnances et il y avait le sanctuaire. Les ordonnances ou les rites du culte, traduit littéralement, et le sanctuaire, qui est même parfois traduit par le mot temple, qui était de ce monde. Il annonce dans son premier verset ce qu'il va développer dans les versets suivants. Alors, il va commencer par le sanctuaire et il continue par les rites, par le culte, les ordonnances du culte. Vous voyez, il inverse même son propos. Il dit, il commence au verset 1, les ordonnances pour le culte et le sanctuaire, et puis il bascule. Et il commence à nous parler du sanctuaire. Il nous parle de cette tente qui est installée. Dans cette traduction littérale, quand il y a un mot, on le traduit exactement de la même façon quand on le rencontre à nouveau. Ça a l'inconvénient que des fois, c'est pas du très bon français, mais ça a l'énorme avantage de faire surgir ce qu'on ne voit pas dans la plupart des traductions, c'est la cohérence du texte.